un écrivain, pour moi considérable, que j'avais envie d'interviewer depuis un certain temps, et j'ai la chance et le grand plaisir et le privilège de l'avoir en face de moi, cet auteur, c'est Antoine Volodin. Merci beaucoup Antoine Volodin d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous en direct dans le studio de Radio Campus Orléans. Bonsoir.
Bonsoir.
Et oui, Antoine Volodin, c'est la référence de cette rentrée littéraire, là où il va y avoir du travail et de la lecture. Puisque Antoine Volodin sort au Seuil, dans la collection Fiction et compagnie, un livre qui s'appelle Écrivain, mais qu'il n'y a pas que sous ce nom-là qu'il y a des livres. Il y a aussi aux éditions de l'Olivier 11 rêves de suie de Manuela Drager. Et puis il y a Les aigles pus de Lutz Batzmann aux éditions Verdier. Vous vous souvenez sans doute, auditeur fidèle de l'émission de littérature, qu'on avait parlé longuement ici de Avec les moines soldats et de Haïku de prison, qui était sorti il y a 2 ans maintenant aux éditions Verdier, dans cette excellente collection Kaoïd, deux titres signés Lutz Batzmann, qui avait fait vraiment sensation. Antoine Volodin, donc, nous allons parler de ces 3 livres. Les aigles pus, de Lutz Batzmann, chez Verdier. Écrivain, d'Antoine Volodin, au Seuil. Et 11 rêves de suie, de Manuela Drager. Avec ces livres, il y a une petite plaquette qui les accompagne. Et je commencerai juste par cette plaquette de lancement qui annonce les 3 livres. Et il y a comme une sorte de slogan: un auteur, 3 noms, 3 livres, 3 éditeurs, une rentrée. Et pour un auteur tel que vous, qui avez toujours donné une importance symbolique au nombre, au point que le nombre de chapitres soit souvent calculé dans vos livres, il y a une certaine jouissance, ou du moins une excitation à l'intitulé de cette plaquette: un auteur, 3 noms, 3 livres, 3 éditeurs, une rentrée.
Oui, évidemment, il y a une certaine jouissance, un certain plaisir au fait de réussir quelque chose qui était en gestation depuis 25 ans, bientôt 30 ans, et qui est l'apparition à une rentrée littéraire. D'une littérature au lieu de simplement un livre porté par un auteur. Cette littérature, là, portée par 3 auteurs, Volodin, Manuela Drager, Lutz Batzmann, j'en ai parlé depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années, elle porte son nom, c'est le post-exotisme, et c'est la première fois, effectivement, que ces 3 auteurs, qui ont déjà chacun une œuvre derrière eux, c'est la première fois que ces auteurs font paraître en même temps dans une rentrée littéraire des livres qui sont pour chacun d'eux importants. Alors, on va parler de cette rentrée. On parle du plaisir, mais il s'agit aussi d'affirmer quelque chose qui est que cette littérature que je défends et dont je suis le porte-parole n'est pas liée à un seul nom, mais à plusieurs noms d'auteurs qui sont non seulement indépendants de la fiction que je peux mettre en scène, qui sont devenus concrètement des auteurs réels, puisque leurs livres sont réels, mais ce sont des auteurs qui sont inscrits dans la rentrée littéraire et dans, on va dire, la littérature, tout simplement. Et vous m'interrogez, moi, Volodin, mais bien sûr, lorsque nous parlerons du livre de Batzmann ou du livre de Manuela Drager, je serai effacé en tant que porte-parole de leur œuvre.
Ma deuxième question, ça serait sur s'il n'y a pas un certain emballement dans le jeu des signatures pour vous ces dernières années. Et j'ai l'impression que la sortie des 2 livres de Lutz Batzmann, il y a 2 ans, a marqué un cap.
c'est votre impression, bien sûr. Mais en fait, on parle de d'auteurs comme Manuel Adreguer qui publie depuis 10 ans. Depuis 10 ans, et là, ce livre qui s'appelle donc 11 rêves de suie, qui paraît aux éditions de l'Olivier, a été précédé de 9 autres livres publiés à l'École des loisirs, dans une collection dite pour enfants, ou pour enfants adolescent, et adolescents. Et en fait, disons que c'est une niche pratique que Manuel Adreguer a choisie pour raconter ses histoires. Et ce sont de petits livres, certes, mais qui s'inscrivent dans une œuvre et dans la construction d'un univers avec une langue particulière, des images tout à fait particulières. Manuel Adreguer n'est pas un nouvel écrivain apparaissant brusquement dans cette rentrée. C'est la même chose pour Lutz Bassmann. La différence peut-être entre Manuel Adreguer et Lutz Bassmann au niveau institutionnel, c'est que Lutz Bassmann a commencé à exister en tant qu'auteur signataire de livres, parce qu'il existait avant dans des livres des années 90. En tant qu'auteur, il s'est affirmé dans une collection de littérature, on va dire de littérature générale, qui chez Verdier, à côté de, au catalogue, on a Bergugno, Michon, etc. Donc on est là dans une affirmation d'entrée dans la littérature. Malheureusement, on peut dire que l'École des loisirs ne permet pas cette affirmation, et là, Manuel Adreguer, sans changer considérablement son écriture et son monde, mais on reviendra dessus, bien entendu, n'a pas bénéficié de cet écho dont Lutz Bassmann a bénéficié, puisqu'il publiait chez Verdier.
Mais tout de même, pour parler de Manuel Adreguer, les histoires qui était écrit sous le nom de Manuel Adreguer jusqu'ici à l'École des loisirs, c'était plutôt des petits récits policiers. Il y avait souvent un récit policier et il y avait quelques des personnages qui étaient des animaux qui menaient des enquêtes. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une... Alors, j'ai pas lu tous les livres de Manuel Adreguer, mais ceux que j'ai lus... Il me semble que 11 rêves de suie qui vient de sortir là aux éditions de l'Olivier, il y a une différence en tout cas au niveau de l'ampleur de l'histoire.
Oui, bien sûr, il y a une différence qui est considérable et qui est que les tabous, les interdits que se fixait Manuel Adreguer puisqu'elle écrivait pour des enfants et adolescents, et en particulier tout ce qui est la réflexion sur l'horreur, sur l'horreur historique, sur la mort, sur la souffrance, c'était quelque chose qui n'existait pas dans ces petits livres, mais qui était présent et qui, dans 11 rêves de suie, évidemment, s'épanouit de façon très différente de l'écriture pour enfants. Bon, c'est un auteur, Manuel Adreguer, qui, au niveau éditorial, pas au niveau des voix qu'elle portait en elle, mais au niveau éditorial, a fait comme pas mal d'auteurs, même de cette rentrée littéraire, d'auteurs français. Elle est venue donner des livres dans la littérature française contemporaine après avoir fait ses premières armes dans la littérature. Je suis un peu dérangé de parler de littérature pour enfants parce que, bien entendu, des enfants peuvent lire les premiers livres de Manuel Adreguer, de même que des enfants peuvent lire les contes d'Andersen ou les contes de Grimm, mais les contes d'Andersen et les contes de Grimm sont écrits aussi par des adultes, pour des adultes, et on peut projeter cette opinion sur les livres de l'École des loisirs, en tout cas ceux-là.
Je confirme complètement. Je suis venu à lire Manuel Adreguer, bien après, du coup, en connaissant déjà les livres d'Antoine Volodine. Et j'ai pris un énorme plaisir, bien entendu. C'est vraiment, on est dans cet univers. Et je me dis même que des ados auraient peut-être des difficultés parfois du coup à...
Non, pas forcément, mais c'est-à-dire on est dans des univers fantastiques, surréalisants et très poétiques, avec des jeux qui ne correspondent pas au schéma habituel des livres pour enfants, qui sont pas forcément bébêtes et abrutissants, mais qui souvent sont bébêtes et abrutissants. Et ça, on n'est absolument pas du tout dans cet esprit-là.
J'ai juste une dernière question concernant donc la sortie simultanée de ces trois livres, de cette rentrée qui fait tout de même, un événement. C'est cette question de qu'est-ce que vous voulez marquer par cette rentrée littéraire. C'est évidemment un hommage qui vous est rendu, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande jubilation en vous. J'ai juste cette anecdote. Quand je vous ai rencontré en janvier 2010 au Temps Moderne, vous étiez invité pour parler de Macao, et vous m'annonciez du coup la sortie de ces trois livres en septembre, et je me souviens de votre visage. Il y avait de la malice, comme quelqu'un qui prépare une bonne blague, qui est en train de jouer un tour. J'ai presque l'impression que vous avez le visage d'un farceur, comme si vous prépariez une farce. Et j'avais l'impression d'une grande jubilation en vous.
C'est le plaisir d'avoir réussi quelque chose, qui est de pouvoir affirmer l'existence d'une bibliothèque à part dans l'histoire littéraire, d'une construction à plusieurs voix, et de pouvoir mettre ça en public, alors que c'était moins évident dans les années qui ont précédé, même si le discours le préparait. Pouvoir mettre ça en public dans de bonnes conditions, avec des éditeurs qui jouent le jeu, des éditeurs qui sont donc l'Olivier, Verdier, Le Seuil, qui se sont concertés, qui fabriquent ensemble cet événement littéraire, non pas événement littéraire au sens de coût, mais de coût littéraire, mais dans le sens d'un objet inhabituel, inattendu. Et effectivement, pour moi, ça correspond aussi à la joie de faire quelque chose qui me semble être d'une part inhabituel et un peu subversif, parce que en même temps, et on va parler de la figure de l'écrivain sans doute tout à l'heure, en même temps, cette dispersion de l'écriture sur plusieurs noms, cette affirmation de plusieurs écrivains, c'est une manière de casser cette assommante figure de l'écrivain définitif, puissant, sûr de lui, sûr de son œuvre, sûr de son écriture. Et il y a un peu de paradoxe aujourd'hui, puisque je parle à la place de trois personnes, mais en même temps, d'une certaine manière, je m'arrange pour parler trois fois moins.
Parler trois fois moins, c'est vrai. Mais peut-être parler différemment, du coup. Parce que je me demande si vous n'avez pas mis des barrières ou des séparations au début de l'utilisation de ces différents noms. Et je me souviens notamment de l'arrivée, il y a 2 ans, de Lutz Bassmann dans le paysage littéraire. Et il y avait eu cet entretien dans Livre Hebdo. Donc Livre Hebdo est une publication à destination des libraires et notamment des bibliothécaires, et puis de la presse professionnelle. Et dans cet entretien, donc, à viser des professionnels du livre, vous avez fait une mise au point pour dire que vous ne feriez pas la promotion de Lutz Bassmann, et que c'était la seule interview dans laquelle vous parlerez au nom de Lutz Bassmann dans ce Livre Hebdo-là, la sortie de Haïkus de prison et avec les moines soldats, paru chez Verdier. Vous disiez notamment, je vous cite, que la littérature post-exotique est assez solide pour s'affirmer par elle-même. J'ai l'impression que votre position actuelle, avec la sortie de ces trois livres, elle me paraît différente, comme un fléchissement du coup. Je pense à cette triple interview qui a été donnée récemment pour le Nouvel Observateur, où du coup, il y avait une triple interview. Une interview de Antoine Volodine, de Lutz Bassmann et de Manuela Dreger. Et ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas... vous n'aviez pas, il y a plusieurs années, une doctrine au départ, et que finalement vous la fléchissez. Ce n'est pas un jugement du tout de valeur, c'est un constat.
Non, je pense qu'on peut parler... La doctrine, d'abord il n'y a pas de doctrine, hein, on n'est pas... On n'est pas dans ce domaine-là, mais il y a des tactiques qui sont différentes. Et j'avais pensé effectivement que pour défendre Lutz Bassmann, il suffirait de faire exister Lutz Bassmann par son texte. Mais malheureusement, nous habitons un paysage. Nous sommes dans un paysage littéraire institutionnalisé, institutionnel, qui fait la part belle à la parole de l'écrivain en dehors de son texte, en dehors de son livre. Et ce qui s'est passé pour Lutz Bassmann, pour ces deux livres absolument importants que sont « Avec les moines soldats » et « Les haïkus de prison », c'est qu'ils ont été défendus de façon militante, mais la parole a été d'une certaine manière étouffée, où ils sont passés plus ou moins inaperçus parce que ils n'avaient pas de représentation publique. Et donc, je pense que ce que je disais, la littérature post-exotique est assez puissante pour exister par elle-même, ça reste valable. Mais si on veut la faire connaître, c'est vrai que le rôle que je m'étais toujours fixé de porte-parole de cette littérature doit être assumé, et c'est ce que je fais à cette rentrée. Maintenant, je ne serai pas à jamais quelqu'un qui prendra la parole pour défendre des livres, parce que, à mon avis, les livres se défendent par eux-mêmes. Mais pour que ce phénomène magnifique des livres se défendant par eux-mêmes, pour que ça puisse se réaliser, il faut, d'une certaine manière, mettre les mains dans le cambouis, ce que je suis en train de faire, à cette rentrée littéraire, répondre à des interviews, être présent dans la rentrée, parce que les livres, dans le système économique et littéraire dans lequel nous existons en tant qu'auteurs, les livres ne peuvent pas exister tout seuls. Alors, donc, je vais défendre ces livres à cette rentrée le plus puissamment possible, en prenant la parole pour défendre écrivain signé Antoine Volodine, ça m'est facile, mais en prenant la parole aussi pour défendre les livres et la signature de Manuela Dreger et de Lutz Bassmann. Pour ce qui concerne l'interview du Nouvel Obs, c'est vrai que c'est un jeu qui fait partie de cette déclinaison de possibilités d'interview à laquelle j'ai été confronté, à laquelle je suis confronté en cette rentrée littéraire. Et j'ai accepté de jouer ce jeu, de dire « je » en parlant d'Ouz Bassmann, « je » en parlant de Manuela Dreger. C'était exceptionnel, c'était une manière de faire. Ça s'inscrit, c'est pas du tout systématique, et ça s'inscrit dans ce cadre très général de tactique de prendre la parole pour défendre les livres.
Très bien. Alors, J'ai lu avec beaucoup de plaisir cet été, puisque du coup, je les avais au début du mois de juillet. Je les ai emmenés avec moi en vacances et je me suis délecté. Alors, quand je lis, je corne les pages, je rature pas, non, je souligne, je mets des mots dans les. Voilà, je préparais déjà toutes les questions que j'avais envie de vous poser. Et j'ai été surpris par ces trois livres. Non pas qu'ils sortent du tout de votre univers, absolument pas du tout pour ça, pas d'inquiétude. mais j'ai été surpris. Parce que je vais prendre Les Aigles Pus de Lutz Bassmann. Dans les Haïkus de prison, que vous avez écrit, donc, enfin, qui a été publié il y a 2 ans, il y avait une unicité. C'était des haïkus qui étaient dans la prison. Il y avait vraiment une grande unicité de récits, d'inventions. Dans Avec les moines soldats, il y avait sept récits, mais tout ça faisait une même histoire. Là, dans Les Aigles Pus de Lutz Bassmann, il y a effectivement une trame narrative qu'on suit. C'est donc Gordon Coombe qui arrive dans cette ville qui a subi un bombardement aérien. C'est dramatique puisque sa femme et ses enfants ils sont morts. Et il va périr là, sous les effets secondaires de ce bombardement. Le goudron est gluant, il y a des gaz asphyxiants et toxiques. Mais il y a toute une série de récits qui vont être enchâssés les uns avec les autres, du coup. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une grande, grande trame de petits récits comme ça, enchâssés les uns avec les autres. Dans Écrivain, donc sous votre signature, Antoine Volodine, chez Fiction et Compagnie, j'ai été également surpris, à la différence par exemple de Macao, que vous avez sorti il n'y a pas très très... c'était au mois de... C'était l'année dernière.
Novembre
l'année dernière. Ou, à la différence de Songe de Mevlido, qui est une somme, qui était des récits où on suivait un personnage du début jusqu'à la fin. Là, dans Écrivain d'Antoine Volodine, c'est pareil. Il y a des petits, il y a des petits récits. Il y a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il y a 7 récits autour de 7 écrivains. Mais c'est 7 récits différents qui ne s'emboîtent pas les uns dans les autres. Il y a de temps en temps des légers reflets, parallélismes des uns envers les autres, mais ils sont ces 7 récits différents. Et puis, il y a 11 rêves de suie de Manuela Dreger. Puis j'avais donc lu quelques-uns de vos livres que j'avais trouvés en bibliothèque, et puis celui-ci que j'avais chez moi, le Radeau de la Sardine, qui à chaque fois était un récit où on suivait une enquête avec des personnages qu'on suivait de A à Z, et à nouveau dans 11 rêves de suie de Manuela Dreger, où là, il y a donc un groupe de jeunes qui lors d'une manifestation, la Bolshoi Pride, quel titre, c'est magnifique, c'est la Bolshoi Pride, vont faire un coup, et puis du coup va se retrouver en situation de disparaître, puisqu'ils vont être pris dans un incendie. Et là, ils vont se raconter des histoires. Et à nouveau, on a une pluralité de petits récits, petits par le nombre de pages, généralement, ça excède pas quelques pages, qui sont enchâssés les uns les autres. Donc dans Lutz Bassmann, Les Aigles Pus, plein de petits récits enchâssés qui n'ont pas force, enfin qui ont des correspondances bien entendu, mais assez légères finalement. On va suivre une kyrielle de personnages qui sont assez courts. Dans 11 rêves dessus de Manuela Dreger, des récits un petit peu plus longs, mais pareil, des choses où on va suivre plein d'histoires. Et dans Écrivain Antoine Volodine, sept écrivains qu'on va suivre, mais qui n'ont pas forcément, enfin qui n'ont pas de liaison les uns avec les autres. Donc j'ai l'impression qu'on, voilà, on est assez éloigné des récits de Manuela Dreger, de l'Antoine Volodine en tout cas de Songe de Mevlido, parce que bien entendu dans vos autres livres on retrouvait ce phénomène, et dans le Lutz Bassmann des Aigles Pus, à la différence de Avec les moines soldats ou les haïkus de prison. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est voulu? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Ou est-ce que c'est aussi votre manière de faire qu'on retrouve dans pas mal de livres signés Antoine Volodine?
En fait, cette manière d'écrire des romans à partir de fragments, de textes fragmentaires qui se combinent et qui sont cimentés par une intention... Si on reprend Lutz Bassmann dans Les Aigles Pus, raconte l'histoire d'un homme qui raconte des histoires. Donc on entend ces histoires, mais d'un bout à l'autre du livre, on suit l'agonie de cet homme sur les ruines de cette ville entièrement détruite, et on suit son intention qui est d'évoquer la mémoire des disparus qui sont à côté de lui sous forme de débris, de goudron, d'évoquer et de parler aux morts. Donc on a un ciment narratif qui donne une unité à ces fragments. Ils ne sont pas, c'est pas des fragments qui sont collés bout à bout comme ça. Il y a entre ces fragments très souvent un retour au personnage principal qui dialogue avec lui-même puisqu'il est ventriloque et qui dialogue avec lui-même en choisissant des restes de d'apparence de vie que sont un pantin, un gollywog carbonisé qui a surgi dans ces ruines miraculeusement, et puis un rouge-gorge mazouté qui est en train de mourir et auquel il continue à donner vie en dialoguant avec lui. Donc on a une unité, je pense, grande de la parole, de l'intention, un cimentage de ces fragments qui décrivent un monde, parce qu'il y a aussi cette unité de décrire le monde dans lequel ce bombardement est intervenu, un monde à la dérive, un monde apocalyptique, un monde noir, un monde où les humains, ceux auxquels je m'intéresse, sont tous considérés comme Untermenschen, sous-hommes. Alors on est dans un livre qui est, à mon avis, très cimenté, enfin qui forme une unité à l'intérieur des fragments. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve également dans Écrivain, même si on a 7 portraits d'écrivains avec quelques réponses d'un portrait à l'autre, mais on a en fait une unité qui se cherche et qui se trouve, j'espère, autour d'une réflexion sur l'écriture et sur la figure de l'écrivain, la figure post-exotique de l'écrivain et pas la figure mondaine contemporaine de l'écrivain. Figure d'écrivain gueux, d'écrivain mort, d'écrivain mourant, d'écrivain malheureux socialement et physiquement. Et on a cette unité qui est créée par le projet, par la réflexion sur ce qui est annoncé par le titre. Bon. Dans 11 rêves de suie, on a également au début, une Bolshoi Pride, une description en gros d'une Bolshoi Pride. À la fin, la fin horrible de cette Bolshoi Pride au milieu des incendies et des cendres, et d'une certaine manière au milieu des flammes qui deviennent synonymes d'éternité. Et tout au long du livre court cette parole diversifiée des différentes victimes de cet incendie qui retrouvent leur enfance, les contes de leur enfance, les contes bolcheviques ou bolchevisants de leur enfance, l'évocation de leur grand-mère, la grand-mère la mémé Holgold qui dit les contes, l'évocation de ce personnage qui revient de nombreuses fois, qui est l'éléphante immortelle Martha Ashkaroth, qui est sujet de contes très politiques. Et puis on est d'un bout à l'autre à l'intérieur de ce qui est annoncé dès le départ, c'est-à-dire tu es en train de brûler, ta mémoire coule à l'extérieur de tes yeux, nous sommes avec toi. Cette fusion des personnages, cette fusion dans le malheur et dans le quotidien qui est décrit de façon anecdotique dans des histoires, un quotidien de répression, de ghetto, de camp. Je pense qu'il y a plus qu'une trame, il y a un ciment, quelque chose qui forme une unité. Alors, on est là dans quelque chose qui est, à mon avis, typique de l'écriture post-exotique. Depuis toujours, les romans post-exotiques, et maintenant, je vais dire, il y en a 35 qui ont un titre, qui sont publiés, qui existent, qui sont consultables. Depuis toujours, ces romans utilisent comme base de la narration des textes coupés de leur contexte, des fragments, des morceaux d'histoire qui se combinent pour devenir du roman, pour faire du roman. Et pourquoi cette technique ? C'est une technique tout à fait naturelle, finalement, quand on pense que, à l'origine, c'est une communauté d'écrivains qui fait le roman. C'est une sorte de cœur, et les différentes voix se combinent, donnent des éléments romanesques, et tout cela est repris par un signataire qui fabrique à partir de fragments, à partir de morceaux divers, qui fabrique du roman un roman. Et là, on a trois fois une démonstration de cette technique qui est notre technique, on va dire, notre technique narrative. Alors bien sûr, dans certains titres, elle est moins évidente, mais on pourrait, même dans « Songe de Mevlido » que vous avez cité, on pourrait voir que même si le livre est plus ample, plus gros, la technique de fragments, d'insertion de fragments est en œuvre aussi.
Cette remarque, en fait, elle vient, je pense, de mon parcours de lecture de votre œuvre. Je suis un lecteur récent. J'avais commencé par, je l'ai là, hein, par acheter des Anges mineurs en poche, parce que mon libraire, c'était les temps modernes à Orléans. Et puis il me disait, comment ? T'as toujours pas lu Antoine Volodine ? Vraiment, ils se sont mis à trois, hein, à me dire que c'était vraiment scandaleux que j'ai toujours pas lu votre œuvre. Je sais pas pourquoi je l'avais pas lu jusque-là. Et j'ai commencé par les Anges mineurs. Je vous avais entendu en fait à France Inter.
Livre formé de fragments.
Voilà, tout à fait.
Par excellence.
Voilà, exactement. Et je vous avais entendu en interview à France Inter. Ça m'avait vraiment donné envie à l'occasion, au moment où vous avez reçu le prix du livre Inter pour des Anges mineurs. Et je suis pas rentré dedans du tout. Ça ne s'est pas fait. Voilà, ça ne s'est pas fait du tout. Et puis il y a eu nos animaux préférés, Entrevoûtes. Et là, j'ai trouvé des ingrédients qui m'intéressaient vivement, mais je me suis arrêté là. Et puis, il y a eu Songe de Mevlido, où là, j'ai bien compris, à la différence de la plupart de vos livres, on suivait Mevlido du début jusqu'à la fin, avec bien entendu plein de récits dedans, mais du début à la fin, une œuvre d'une grande ampleur. Enfin, ça fait 450 pages. Tout le monde disait que c'était votre chef-d'œuvre, et moi, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre. Voilà, je me suis dit, c'est un chef-d'œuvre. Je suis tombé sur un chef-d'œuvre. Je l'ai relu deux fois. J'étais émerveillé. Enfin, pour moi, c'est un livre, immense, important. Et je me dis, maintenant, là, parce que vous êtes devant moi et que je vous ai posé cette question, je me dis, ça se trouve, c'est justement mon parcours de lecture. J'ai adoré Songe de Mevlido, que je situe très très haut pour moi dans ma propre échelle de valeur. Et justement, peut-être parce que ça partait du début jusqu'à la fin de ce personnage de Mevlido. Et je pense que petit à petit, du coup, je me suis mis à aimer le post-exotisme. Le vrai, du coup, parce qu'on pourrait presque dire que Songe de Mevlido, du coup, cette linéarité autour de ce personnage de Mevlido, c'était peut-être quelque chose du coup qui était étranger, pas étranger au post-exotique, bien entendu pas, mais un petit peu, pas un pas de dehors, mais une autre manière de faire peut-être. Et après, je me suis mis voilà, à aimer cet enchâssement de récits. Vous l'avez très très bien dit pour décrire les trois ouvrages qui viennent de paraître. D'ailleurs, précisons qu'ils ne sont pas encore en librairie. Ils seront demain. En librairie demain. Voilà, précisons-le tout de suite. Non, les librairies sont fermées à cette heure-là. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais du coup, ces trois livres, j'ai trouvé formidables. Mais il m'a fallu passer par Songe de mes vidéos là dans mon parcours de lecteur. Du coup, il m'a fallu commencer par un livre qui faisait le récit d'un personnage de A à Z avant de pouvoir apprécier la méthode post-exotique par excellence. Voilà, c'était pour vous faire part de.
Il y a eu un deuxième livre qui suit un peu cette linéarité. Tout est relatif, hein, bien sûr. C'est Don Dog, où on suit le parcours d'un personnage qui s'appelle Don Dog de chapitre en chapitre, même s'il y a des flashbacks, des moments où il est beaucoup moins présent, mais on est dans le même type de construction. Mais évidemment, il s'agit, et ça nous y veillons tous, les auteurs de cette communauté d'écrivains, nous veillons à ne pas toujours écrire la même chose et à remuer des choses qui nous sont chères et qui nous sont communes et qui sont une patte romanesque très vaste, très importante, très variée, mais à la remuer en essayant de ne pas toujours utiliser les mêmes recettes. Et le fait que certains de nos titres soient sous-titrés comme nom de genre, non pas roman, mais romance ou entrevoûte ou narra, montre que, alors que tout cela appartient au genre roman, à notre avis, tout cela appartient à un même domaine qui est le domaine romanesque, mais les manières de raconter les histoires, d'entrecroiser les histoires, de faire surgir les images, ne sont pas toujours les mêmes. Parce qu'autrement, ça n'aurait pas d'intérêt, hein, tout simplement.
On parlera tout à l'heure de créativité, justement, de ce que cela permet. Juste une dernière question avant de faire une petite pause musicale. En lisant ces trois livres, Les Aigles Puent, Écrivain et Onze Rêves Dessus, j'ai tout de suite été émerveillé, comme j'ai pu l'être dans les précédents livres, de l'inspiration des noms. Il y a des noms propres, de quelques noms de lieux, de rues notamment, dans Les Aigles Puent, et puis des noms propres de personnes. Et j'ai l'impression qu'on pourrait presque établir une théorie des noms. Et je me posais la question, mais comment élaborez-vous ces noms? Il y a un nom merveilleux dans Onze Rêves Dessus, c'est Imayos Beg. Et puis en creusant un petit peu, je me suis aperçu que... Et puis dans Les Aigles Puent, il y a vraiment des noms merveilleux. Et en creusant un peu, je me suis dit, mais comment vous les élaboriez? Vous avez... À la sortie avec les moines soldats et de haïku de prison, il y avait un texte, un inédit de Lutz Bassmann dans cette revue dont j'ai fait partie, la revue Tina. C'était le numéro 1 de la revue Tina et on était tous vraiment mais merveilleusement heureux d'avoir un inédit du post-exotisme. Enfin, on était vraiment dans une grande, grande, grande excitation. Et puis je l'ai ressorti là parce que, en lisant Les Aigles Puent, je crois que je m'en suis souvenu. Et il y a un passage, en fait, dans cet inédit qui s'appelle 1977 ans avant la Révolution mondiale. Et en fait, c'est un petit passage des Aigles Puent. Mais seulement, il y a un souci, c'est qu'il y a des noms qui changent. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je vais vous lire le court passage dans la revue Tina. Le même jour, un drone poursuivit Nadiejda Laryagan sur l'avenue des frères Kowarski. Mais ça va donner, du coup, dans Les Aigles Puent, un peu plus loin, le même jour, un drone poursuivit Alma Baalian sur l'avenue des frères Samagone. alors qu'il y avait très très peu de changements, vraiment très très peu, et que quelques petites phrases comme ça que vous avez dû réécrire entre ce fragment de texte que vous aviez donné pour la revue Tina il y a 2 ans, et puis le texte des Aigles Pus, il y a vraiment très très peu de changements dans les passages. Seulement là, j'ai repéré des changements, non, et je me suis interrogé sur... Alors que vous en créez vraiment des dizaines, des centaines, plusieurs centaines, des noms tous plus magnifiques les uns que les autres, pourquoi? Et puis c'était jusqu'au nom de l'avenue des frères Samagone, alors que c'était l'avenue des frères Kowarski. Je me dis, qu'est-ce qui est si important pour vous d'avoir changé les noms?
Je ne me rappelle absolument pas pourquoi ce travail a eu lieu.
Je m'en doute un peu.
Il me semble que dans le livre de Bassmann, à un moment, il est fait allusion à la tour Kowarski. Il y a une tour Kowarski qui est la tour sur laquelle, la plus haute, oui, sur laquelle le personnage qui est chargé de nettoyer le haut des immeubles, des nids d'aigle, je pense que c'est la tour Kowarski qui l'escalade. Donc il y a peut-être eu, de la part de Lutz Bassmann, l'intention de ne pas répéter ce nom pour un nom d'avenue. Pour le reste, je ne sais pas. Nous aimons les noms. Nous aimons jouer avec les noms et nous aimons d'abord échanger nos noms. Les signatures comptent assez peu pour nous. Finalement, la théorie de la création selon le post-exotisme fait que les signatures ont peu d'importance. Mais pour ce qui concerne les personnages, la création permanente de noms nous permet de marquer de petites étapes dans cette répétition du fragment. Parce que, comme je le suggérais tout à l'heure, il s'agit bien à l'origine d'une création collective, d'une création qui est faite de dictions répétées, de mêmes chapitres, de mêmes morceaux de chapitres, de mêmes petites histoires ou petits fragments d'histoire, et chacun ou chacune, à son tour, s'approprie ce fragment pour l'embellir ou pour le mémoriser en y instillant éventuellement une petite signature, une petite griffe personnelle qui n'est pas du tout, qui est souvent un clin d'œil sur lequel nous avons très peu de clés. Enfin, nous ne pouvons pas décrypter ce qui est crypté à ce niveau-là. Et peu importe, je crois que le plaisir de retravailler un texte, qui est notre technique, enfin, de retravailler 6, 10 fois, 15 fois le même texte, est associé à deux choses. D'une part, le plaisir de rentrer à chaque fois dans l'image qui a été créée, et donc de revivre l'histoire. Et puis, c'est aussi l'occasion de musicaliser, de faire des jeux musicaux, et les noms sont des moments forts de ces jeux musicaux. On peut donc en fait changer des noms de le nom dans 11 rêves de suie. Manuel Adreger a choisi des noms pour des ghettos, pour des quartiers, des noms de quartiers, pour des noms de dortoirs, etc. Tout cela a changé au fil des versions. Changer, pourquoi? Pour mieux s'approprier l'ultime version. Voilà.
Karl, on va faire un petit moment de musique et nous allons partir après vers d'autres vers d'autres questions qui seront vraiment différentes. Voilà, là, on a en gros présenté les trois livres et on va pouvoir partir vers des questions concernant la créativité, l'inventivité. Karl, je crois que tu as un joli programme musical.
J'ai essayé, en fait, mais je n'ai pas réussi totalement à trouver ce que je t'avais un peu annoncé avant. Donc, du coup, on va se diriger vers les années 50, où, à l'instar de M. Schaeffer en France, des gens ont créé des laboratoires de recherche musicale à travers la planète. Et aux États-Unis, ils étaient surtout associés, en fait, aux grandes facs, aux grandes universités. Et M. Vladimir Ousachevski, en fait, russe d'origine, a créé, en fait, le laboratoire de Princeton Columbia, avec un monsieur qui s'appelait Otto Luening, et là on va entendre en fait une pièce qui s'appelle Incantation, qui date de ces années, c'est plutôt SF.
De retour à l'émission de littérature, toujours en compagnie de Antoine Volodine, pour parler de cette triple rentrée littéraire autour du post-exotisme avec Écrivain, signé Antoine Volodine, par aux éditions du Seuil, Les Aigles Puent, signé de Lutz Bassmann aux éditions Véridier, et Onze rêves de suie de Manuela Dreger aux éditions de l'Olivier. Ces trois livres seront en librairie dès demain. Alors, nous avons parlé avant ce morceau de musique de l'inspiration des noms. J'aimerais maintenant vous parler de ce monde autour des figures, autour de ces personnages, de ce monde post-exotisme et de ce lien avec l'inventivité. Ce monde est vaste que vous avez créé. Il s'agrandit de livre en livre. Il s'augmente. C'est un monde en augmentation, mais je grossis vraiment à grands traits exprès. Ça peut donner l'apparence d'un seul monde. Et plutôt que d'appauvrir vos fictions, plutôt que d'amoindrir votre créativité, cela la développe bien au contraire. Et du coup, ma question c'est, vous faut-il faire évoluer alors une somme astronomique de personnages dans le monde presque semblable pour sans cesse être créatif? Parce qu'il faut le dire, vous êtes incroyablement créatif.
Nous sommes incroyablement créatifs, effectivement, mais admettons. Mais en ayant des racines pour raconter nos histoires, pour dire des choses qui sont des racines communes, non seulement à cette communauté d'écrivains qui est à l'origine du post-exotisme, mais également au lecteur et à la lectrice, puisque l'inventivité, certes, mais les racines plongent dans la mémoire collective, la mémoire historique collective, jusqu'en l'an 2000. J'avais l'habitude de dire du XXe siècle, mais puisque le XXe siècle et ses horreurs ont empiété déjà de 10 ans sur le XXIe siècle, on va parler de l'histoire du présent, de l'histoire immédiate, de l'histoire contemporaine du siècle passé, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et cette mémoire a des points d'ancrage qui sont considérablement développés et retrouvés à l'intérieur de nos livres, quels qu'ils soient, pas systématiquement, mais la plupart du temps, c'est les génocides, la Shoah, les guerres d'extermination, les guerres coloniales, les guerres d'une manière générale, la guerre et les camps sous toutes leurs différentes modalités et la déclinaison des formes de camps est très vaste. Bien sûr, nous parlons dans Lutz Bassmann, dans Les Aigles Puent, d'un monde totalement noir, totalement en guerre, où ceux qui prennent la parole sont des gens qui ne comprennent pas pourquoi on les bombarde, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont arrosés de napalm, pourquoi ils sont réduits à une telle misère, pourquoi ils sont traités comme des sous-hommes. Ils ne comprennent pas. Et je pense que, par exemple, on pourrait assez vite retrouver cela, cette conscience, cette image-là, qui est peut-être, qui semble être une invention très, très grande, on pourrait la retrouver dans toute actualité, montrant une noce en Afghanistan, par exemple, où 150 personnes sont en train de faire la fête et sont bombardées et brûlées et deviennent brusquement, sur des statistiques, des insurgés vaincus par des drones. Alors, je pense que l'invention, elle est finalement relative. Nous puisons dans l'actualité, dans notre expérience personnelle, qui est une expérience de défaite. Nous puisons dans l'actualité, dans l'histoire des 70-80 dernières années, particulièrement, et nous racontons des histoires en les passant au filtre de l'invention, de l'onirisme, du fantastique. Et effectivement, ça donne des univers de ruines où tout est noir, tout est en cendres. Ça donne dans 11 rêves de suie, des univers où le monde est couvert de camps et de ghettos, où les enfants n'ont pas d'autre expérience que celle des ghettos et des camps. Ça donne des univers terribles comme cela, mais en fait, de quoi ça parle ? Ça parle de notre expérience contemporaine. Alors l'inventivité, oui, parce qu'il y a ce filtre volontaire d'onirisme, de fantastique, de surréalisme qui est plaqué sur une mémoire, Mais je pense que ce qui fait l'intérêt de ces livres pour les lecteurs et les lectrices, c'est que ça ne les renvoie pas de façon consciente ou inconsciente, ça ne les renvoie pas à un monde imaginaire, mais ça les renvoie à leur mémoire collective.
Et c'est effectivement là où il va y avoir tout l'enjeu de la création. Je cherche toujours à savoir où pourrait se nicher cette grande inventivité, moi qui m'émerveille. Et je me dis qu'elle ne se niche pas dans la langue. Je vais m'expliquer. Je vois une analogie forte avec Pierre Guyotat. Je vois beaucoup d'analogies, de rapprochements entre vos fictions et les grands livres de Pierre Guyotat, parce qu'il écrit ces 10 dernières années, mais ses grands livres, c'est Tombeau pour 500 000 soldats, Eden, 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 ou Progéniture, publié en 2000. Et progressivement, il a transformé la langue, Pierre Guyotat. Il a travaillé jusqu'à un point inouï, certains disent que sa langue est illisible. Vous, ce n'est pas votre cas. On peut en avoir des réminiscences comme ça, dans Écrivain, par exemple. Dans Écrivain, donc dans ce texte Mathias Holban, vous écrivez, donc c'est sous le nom d'Antoine Volodine. Néanmoins, en prenant pour base l'esprit de système de Mathias Holban et le temps dont il disposait, on peut sans risque de grosses erreurs affirmer qu'au bout de 26 ans de captivité, il avait forgé près de 100 000 mots qui se répartissaient comme suit. 60 000 noms et prénoms de victimes du malheur, 20 000 noms de plantes, de champignons et d'herbes imaginaires, 10 000 noms de lieux, de rivières et de localités qui n'existaient que dans des univers parallèles, et 10 000 palabres diverses n'appartenant à aucune langue, mais possédant une logique phonétique qui les rendait familières à l'oreille. Voilà en quoi consistait l'œuvre de Mathias Holban. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans la fiction. Mais les écrivains du post-exotisme n'ont pas fait cela. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cherché à se fabriquer une contre-langue, comme a pu le faire par exemple Pierre Guyotat, une langue contre l'ennemi, où les figures du post-exotisme auraient créé une langue non compromise par la langue de l'ennemi. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez été tenté par cela ou pas du tout ?
Non, je pense que jamais, personnellement, j'ai été tenté par l'idée de créer une langue propre. En revanche, je pense que un de nos soucis, c'est de ne pas coller à cette ambition linguistique qui est de faire de la langue littéraire, de fabriquer de la belle page, de fabriquer du beau texte. Nous travaillons dans une sorte de langue que nous appelons une langue de traduction, en inventant énormément vous avez parlé des noms, il y a beaucoup d'inventions de noms. C'est important parce que ce sont des références posent toujours nos mondes, nos univers, nos fictions en dehors du réel qui appartient à l'ennemi, justement. C'est une autre manière de ne pas pactiser avec l'ennemi. Deux choses, ne pas pactiser avec l'académisme, donc nous ne sommes pas du tout préoccupés par cette beauté artificielle de la langue, cette recherche cette recherche purement esthétique et purement formaliste. Nous ne tenons pas à écarter le lecteur de nos livres par un travail sur la langue qui serait avant-gardiste. Enfin bon, il y a une volonté très claire dans notre travail de pactiser avec le lecteur au niveau de la langue, au niveau de cette langue qui a pour objectif évidemment de raconter des histoires, de faire passer des idées, de faire réfléchir, mais qui a pour moteur de créer des images qui doivent passer chez le lecteur. Or, si la langue rebute, on ne peut pas faire passer d'images, on ne peut pas utiliser de techniques d'approche de l'image et de faire surgir l'image avec quelque chose qui disperse l'attention du lecteur sur autre chose que l'ouverture de son inconscient vers l'image.
Je vais encore parler de mon parcours de lecteur, parce que je pense que c'est vraiment Songe de Mevlido, quand je l'ai lu, qui a été vraiment un bouleversement pour moi, alors que j'étais toujours dans la lecture de Pierre Guyotat. J'ai beaucoup lu Pierre Guyotat, cette émission, dans ses premières années, était une émission pro-Pierre Guyotat. Elle ne l'est plus. Et je crois que c'est pour cette question de la langue, parce qu'il me semble que vos mondes sont finalement assez proches, mais qu'il y a cette énorme différence du coup du travail de la langue, cette question théorique, esthétique, qui vous sépare, alors que je pense vraiment que le monde de progéniture, je crois que vous ne l'avez pas...
Je ne connais pas.
Voilà. Je trouve qu'il y a des grandes similarités avec votre monde, mais dans une langue du coup radicalement différente. Et je pense que c'est que vous m'avez fait quitter la lecture de Pierre Guyotat, parce qu'il me semblait... Non, soyez absolument pas désolé, j'en suis le premier avis. C'est normal qu'il faut se séparer aussi de ces figures tutélaires aussi. Des fois, c'est aussi important d'avancer comme ça, et vous m'avez fait grandement avancer en faisant quitter Pierre Guyotat vers quelque chose du coup d'une langue plus lisible. Bon, ça, c'est dit. Maintenant, cherche toujours, snige votre inventivité. Et alors, j'ai esquissé quelques petites choses où vous pourrez snicher votre inventivité. Par exemple, dans ce mélange de figures mi-humaines, mi-animales, dans la chronologie sans cesse recomposée, présent, passé, futur, tout ça c'est mélangé. Enfin, mélangé, je m'entends, perceptible, compréhensible, mais mélangé. Dans l'enchâssement de mini-récits, dans le croisement entre la multitude de petites aventures, et ce travail du coup de complexité, si on mêle déjà ne serait-ce que tout ça, on a déjà une matière complexe. Et encore, j'oublie vraiment à Essien beaucoup d'éléments qui forment une grande complexité. En sorte que j'ai l'impression que votre problème n'est jamais quel sujet trouver à écrire, qu'est-ce que je vais écrire, mais plutôt comment rassembler en une seule entité livre ce trop-plein de créations. Par quelle construction faire entrer vos histoires dans une entité fixée par un livre. Est-ce cela une partie de votre problème d'écrivain?
Je pense que nous n'avons aucun problème d'écriture, aucun problème d'écrivain. Quand on parle de complexité, j'ai du mal à vous suivre parce que je pense que le fait que l'objet soit riche, avec des composants riches, nombreux, ne le rend pas complexe. Simplement, l'approche qu'on peut avoir de l'objet romanesque n'est pas la même que pour une petite histoire tranquille, rentrée d'automne, jetable. Bon. Alors, on est là dans quelque chose qui est un édifice visitable, riche et à mon avis pas du tout compliqué. Simplement, on n'est pas très habitué à cette luxuriance de l'histoire. Le lecteur a été déshabitué de la luxuriance de l'histoire, qui était quelque chose qui était très très vivant, dans la littérature très aimée par les lecteurs dans les années 60-70, la littérature sud-américaine par exemple. Aujourd'hui, quand on va prendre un livre d'écrivain français, et nous ne nous réclamons pas de cette catégorie en fait, on cherche quelque chose de plus simple, de plus linéaire. Alors l'inventivité, le fait d'organiser quelque chose qui est riche n'est pas très compliqué. Simplement, il faut l'organiser autour de quelque chose qui est fort et que le lecteur peut suivre. Alors, c'est soit un personnage fort qu'on va suivre comme dans Don Dog, comme dans Mevlido, dans Songe de Mevlido, soit un groupe qui est très très nettement montré dans 11 rêves de suie. C'est un groupe de jeunes dans Luz Bassman, dans Les Aigles Pus. On va suivre un personnage qui va dire des histoires et qui va exister en disant ces histoires. Je pense qu'on n'est pas du tout confronté à une complexité. On est confronté à une richesse. C'est pas la même chose.
J'ai envie de continuer un petit peu sur cette voie-là en parlant à Antoine Volodine, l'auteur de Nos animaux préférés, l'auteur de Songe de Mevlido, l'auteur d'Écrivain. J'ai envie de vous demander quand même, mais forcément, Antoine Volodine, vous avez des problèmes d'écrivain. Il y a un moment donné où vous réfléchissez à votre propre pratique et où vous avez des problèmes qui doivent se poser à vous et que vous cherchez à résoudre. Ou est-ce que vous raisonnez, mais pas du tout comme ça?
Je pense que je raisonne pas du tout comme ça, mais en même temps, si on prend le livre qui s'appelle Écrivain, le fait de mettre en scène des écrivains face à leur œuvre, en train de façonner leur œuvre, est quelque chose qui montre que c'est un problème qui est à travailler. Mais qu'est-ce qui caractérise ces écrivains qui sont mis en scène dans Écrivain? C'est la solitude. Ce n'est pas du tout des problèmes d'écriture, des problèmes de création, des problèmes de mise en forme, absolument pas. Leur seul problème, c'est leur solitude, soit une solitude sociale, c'est-à-dire des écrivains qui, comme Bogdan Tarasiev, écrivent toute leur vie une œuvre géniale et sans absolument avoir le moindre écho tout au long de leur vie, ou c'est des personnages comme Nikolaï Kourilline, sur lequel se termine le livre, qui passe sa vie entière à ruminer sur le jour de sa naissance, jour où sa mère est morte en couche et où, de l'autre côté de la fenêtre où avait lieu l'accouchement, on entendait, disait sa grand-mère, des cloches, mais en fait, il ne s'agissait pas de cloches, il s'agissait de fusillades dans une caserne du NKVD au sud de Moscou. Soit dit en passant, nouveauté peut-être par rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, là, vraiment, j'ai utilisé des archives. Aucun des dizaines et des dizaines de noms qui sont montrés dans ce chapitre n'est inventé. La fiche avec le chef d'inculpation, la date de la fusillade, et tout ça est exact. Oh, oui. Un travail d'archives que j'ai utilisé pour la première fois dans mon travail.
Oui, parce que vous n'avez pas de souci de documentation jusque-là, quoi.
Voilà, bah, c'est-à-dire jusqu'à présent, tout ça existait de façon dévoyée par ce filtre dont j'ai parlé, ce filtre de l'onirisme qui faisait que les univers ne collaient pas avec l'univers réel, historique ou géographique. Là, dans ce chapitre, on est complètement dans le réel. C'est une fiction, bien entendu, mais tout ce qui est document d'archives est véritable, est authentique.
Vous venez de parler, il y a eu une minute, de Bogdan Tarassiev. Donc c'est ce récit, la stratégie du silence dans l'œuvre de Bogdan Tarassiev, qu'on trouve donc dans Écrivain. Tout de même, Bogdan Tarassiev, il se pose des problèmes d'écrivain, il se pose des problèmes d'écriture. Pour Wolf, par exemple, et là, ce qui est absolument fabuleux, c'est que vous énoncez toujours les titres et puis le contenu des ouvrages de ces écrivains fictifs. Et à chaque fois, on est émerveillé. Je vais juste lire ce passage, c'est page 110. « Wolf est une vaste œuvre testamentaire où se rejoignent de manière harmonieuse tous les talents de Bogdan Tarassiev. L'art du monologue épique, la peinture de scènes en obscurité, l'oscillation entre sphère politique et sphère mystique, l'humour acide, l'imbrication des anecdotes, l'enchevêtrement des mondes intérieurs, la peinture des dérives vers la folie ou vers la mort. On y voit un vieillard presque aveugle qui erre à travers les paysages de son siècle et en particulier dans une immense métropole bombardée, allusion transparente à la guerre de 2038, afin d'y chercher à quel moment précis a eu lieu la bifurcation vers l'irrémédiable. À chaque fois qu'il repère un tel nœud, donc là, j'insiste, à chaque fois qu'il repère un tel nœud, l'auteur, matérialisé souvent sous forme d'un ou de plusieurs êtres vivants, il entreprend de rêver un rêve où les responsables du malheur soient détruits, fusillés ou mis hors d'état de nuire. Bien entendu, sa méthode d'action sur l'histoire réelle se révèle inefficace.
C'est un bon résumé du travail que nous faisons.
Et tout à fait.
Qui se termine avec cette même conception de l'écriture qui nous rejoint, c'est-à-dire ce n'est pas avec des livres qu'on change le monde. Ce n'est pas en prenant la parole qu'on modifie quoi que ce soit de la réalité politique ou plus généralement de la réalité.
Mais il y a cette phrase-là, c'est à chaque fois qu'il repère un tel nœud. Là, on le voit à l'œuvre. On le voit travailler à chaque fois qu'il repère un tel nœud. Et là, hop, il entreprend de rêver un rêve. On est dans son écriture. C'est comme s'il s'était posé un problème d'écrivain en disant « Voilà, je vais repérer dans mon texte. Et hop, je vais faire une bifurcation. Je vais faire un récit de rêve. » Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne vous, Antoine Volodine, qui écrivez écrivain, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne quand vous écrivez? Vous dites, voilà, je vais essayer de, pour ce tel livre, me fixer telle méthode, et dès que je vais repérer quelque chose, hop, je vais y insérer un récit, un rêve.
Absolument pas, je ne me fixe absolument aucune méthode d'écriture, et simplement, le travail ne se fait absolument pas comme ça, sur une sorte de schéma préexistant. Il y a, disons, un... Je ne peux pas parler d'un premier jet parce que, en fait, on parle de succession de fragments qui sont collés bout à bout, qui sont combinés. Et il y a un moment où apparaît une première version possible d'un livre. Et à partir de là, effectivement, il y a tout un travail d'écriture qui se fait, deuxième, troisième, etc., version, jusqu'à ce que le livre existe sous sa forme accomplie. Alors, à aucun moment, je ne me pose la question de façon théorique de « tiens, ça serait bien de faire intervenir tel type de chapitre, tel type de développement ». C'est absolument... Je fonctionne... au contraire de la théorie, je fonctionne à l'intuition, et c'est cette intuition qui fait intervenir au bon moment Des passages oniriques ou des développements plus imagés ou plus théoriques ou plus brutaux.
C'est ça. Vous fonctionnez avec une intuition fictionnelle. Vous êtes dans l'écriture de votre récit et soudain vous avez des intuitions fictionnelles que vous transposez immédiatement, mais
c'est pas soudain, parce que en fait le livre préexiste sous des formes embryonnaires, sous la forme de plusieurs livres embryonnaires qui deviennent un livre à un certain moment, qui deviennent un premier projet viable de livre. Et à partir de ce moment-là, l'histoire se fait, le livre se fabrique. Mais ce qui vient soudainement, au fil de cette création que j'ai pu observer, c'est le déclencheur, ce qui fait qu'un livre va exister alors que d'autres choses existent, préexistent. Le déclencheur, parfois, c'est un rêve. Et c'est à partir d'un travail sur le rêve que le travail romanesque va démarrer véritablement. Pas systématiquement, mais souvent.
Le rêve, mais peut-être aussi le fantasme, qui peut être son pendant peut-être un peu plus contrôlé.
Oui.
J'imagine
que
vous avez des fantasmes fictionnels, des fantasmes d'écrivains vers des fantasmes de texte vers lesquels vous avez envie d'atteindre. J'imagine que, parce que tout de même, il y a une grande ambition dans vos textes. Vous êtes sans doute en France un des écrivains les plus ambitieux. Donc,
je ne pense pas.
Mais j'imagine en tout cas qu'il y a, même si vous ne l'avez pas en vous, cette ambition, qu'il y a une ambition en tout cas d'un fantasme un fantasme d'écriture que vous avez envie d'atteindre. Est-ce que vous avez un fantasme d'écriture que vous avez envie d'atteindre ?
Au moment de l'écriture, ce que j'ai envie d'atteindre, c'est la dernière phrase, c'est la dernière image. Et cette image, elle existe déjà au moment de l'écriture. Elle préexiste, elle a existé sous forme d'un fragment, d'un texte qui n'a pas... donner autre chose qui n'a pas été parfois ce qui se produit, c'est que le premier moment d'un livre, de ce que je suppose être un livre, va devenir le dernier moment de ce livre, et c'est vers ce dernier moment que j'écris le livre.